La nature est avec nous. Déploie ton corps avec elle. La rivière est magnifique. Toutes ces étoiles dans l'eau. Je t'aime. Vas-y, prends un verre. C'est du vin nature.
Et oui, c'est une super chute. On remercie encore mille fois Sandrine qui avait trouvé ce générique. J'ai pas eu le temps d'en trouver un autre, mais il est tellement bon celui-là.
Il est super, j'adore.
Il est génial. Quoi. C'est sensuel. À chaque fois, c'est marrant parce que les invités se demandent, mais il en vient où avec son truc? Puis à la fin, t'as la chute. Ah, tout le monde sourit. Vous êtes à l'écoute de Transistor sur le sport.4fm et ou en DAB+ sur tout le Sud Finistère. Et nous sommes en direct depuis la 4e édition du Salon des vins nature et illustration. Il fait chaud. Hier, il faisait chaud. Et aujourd'hui, ouais, je crois qu'il fait chaud aussi.
Non, il fait toujours très chaud.
Il fait chaud, mais il y a un peu plus d'air.
Il y a un tout petit peu plus d'air.
Voilà,
ouais,
mais
c'est,
c'était pour prendre soin de nos invités qui, pour beaucoup, viennent du sud de la France quand même, et puis où de l'Anjou, un pays où il fait, on sait, toujours chaud, toujours beau. C'est la dernière émission qu'on vous propose sur nos ondes, consacrée, alors c'est le rendez-vous de la bouteille, consacrée à une rencontre avec des vignerons, et Christophe, je t'ai confié au dernier moment cette interview. Je me disais, il est trop bon, Christophe. Donc, je te laisse nous présenter nos invités.
Tu dis ça parce que j'aime le vin nature, c'est pour ça.
Voilà, mais moi aussi, en fait. J'en ai un peu trop goûté tout à l'heure, on va dire.
Bon, d'accord. Alors, je reprends le relais. Bah, alors, on a l'immense plaisir d'accueillir un artisan qui ne fait pas de compromis avec la nature. Ses cuvées sont vivantes, vibrantes et racontent une vraie histoire de terroir. Place au partage, à la passion et à la découverte. Il est aussi paysan boulanger et fait un pain incroyable. Alors, c'est Ludovic Gros, pardon. Et vous travaillez d'habitude avec Marie qui n'est pas là aujourd'hui. Elle est restée à la boulangerie.
C'est ça. Marie est en train de trier du grain pour remettre le moulin en route, demain. Bon. Voilà.
On reviendra là-dessus parce que ouais, c'est très intéressant, la diversification. On a aussi avec nous, ils sont installés depuis, vous avez fait 28 ans que vous êtes
ça
là-bas.
Ça fait 31 ans.
31 ans, c'est magnifique. Bravo de tenir parce que 31 ans dans le vin nature, c'est quand même quelque chose. Alors, vous pensiez avoir tout goûté en matière de vin nature. Eh bien, cet après-midi, on vous propose de découvrir autre chose. C'est le nom du domaine qui bouscule joyeusement les codes et nous offre des cuvées vibrantes, hors des sentiers battus. Ouvrez grand vos papilles, on accueille Tiffaine Pierlot et le domaine Autre Chose. Vous faites ça tout seul?
Non, nous sommes deux, couple, voilà.
Et vous, c'est alors vous, c'était une reconversion?
Oui, nous, c'était une reconversion où on a trouvé notre voie. Assez, plus tardivement, donc c'est l'installation, la création du GAEC, c'est 2022, donc c'est assez récent effectivement. Et oui, moi j'étais graphiste et j'ai fait des écoles de design. Mon compagnon donc cherchait sa voie et a trouvé la lumière et la passion en débarquant dans les vignes par hasard.
Ah ouais, alors comment on fait du vin nature par hasard? Parce que s'il y a quelque chose de compliqué à faire, c'est bien du vin nature.
Oui, oui. Alors, on a débarqué par hasard. Après, les choses ont été un petit peu plus longues que ça. On a directement, lui et moi, on est directement tombés dans en Anjou et aussi en Dordogne, mais dans des domaines nature qui étaient déjà ancrés dans cette démarche. Donc, en fait, on a connu que ça. Nous, on n'est pas du tout issus d'un milieu viticole. Moi, j'ai grandi en Seine-et-Marne. Lui, il est du Morbihan. Donc, pas du tout de famille reliée au vin. Donc, ça a été vraiment une découverte. Et on a commencé directement avec l'agriculture biologique et le vin nature.
Quand vous dites Dordogne, Anjou, vous avez fait vos classes dans des domaines
Oui, c'est ça. Enfin, alors, moi, c'était plus les vendanges. Corentin, ça a été ses premières vinifications à l'Estignac auprès de Camille et Mathias Marquet. Grosse expérience aussi, un très beau domaine, des très beaux projets, une vinification. Enfin, plein de choses. Il a beaucoup appris aussi là-bas, et à la suite de ça, bon voilà, tout s'est passé après en Anjou sur plusieurs années d'ouvriers ouvriers viticoles, plusieurs vinifications. Corentin s'est lancé un peu avant moi, tout seul avec un travail en parallèle, enfin travailler toujours pour différents domaines, voilà. Et on a toujours été entouré en fait de bio nature, donc en fait l'agriculture biologique et même le nature n'ont même pas été une question, mais plus une évidence parce que c'est tout ce qu'on a connu, et plus que le vin, c'était une vie, une façon de vivre, une philosophie, des gens, des êtres humains, et on a hésité à s'installer en Bretagne, vu que mon ami est du Morbihan. Mais effectivement, on a choisi de rester en Anjou pour, premièrement, quand même, le social, les gens, ce genre de choses.
Vous dites que c'est pas très social, la Bretagne ?
Non, ah ben non, la Bretagne, tout va bien. Non,
je plaisante. Mais alors, pourquoi pas le cidre, alors ? Parce que la
pourquoi
Bretagne,
pas c'est... le cidre, oui. Ouais, ah, ouais. Bah ouais, mais non, on aime bien le pinard, ouais.
Ah, d'accord, ok. Donc, et vous, Ludovic, vous vous doutez bien que j'allais bien revenir avec la même question. C'est quoi l'histoire de Terre Vivante ?
Ouais, l'histoire, c'est deux personnes qui se rencontrent dans un lycée agricole, déjà un peu dans cette idée d'être sur un retour à la terre. Moi, je suis pas fils de paysan, mais le vin m'intéresse aussi. Et je rencontre Marie, qui est, elle, fille de paysan, une famille de 11 enfants, une petite ferme en autosuffisance. Voilà, on est inspiré par ce retour, après avoir bossé ailleurs quand même. Hein. On n'est pas directement allé dans les vignes. Moi, j'ai été sommelier pendant 6 ans. Voilà, elle a fait plein de petits boulots à droite, à gauche dans l'agriculture. Et voilà, en 1995, la grand-mère appelle, on se retrousse les manches. Dans un moment d'inconscience, on fait un saut vers l'inconnu. Et je me retrouve dans un élément que je connais pas si bien que ça. Parce que moi, j'ai pas, encore une fois, on a sauté une génération. Donc, j'ai dû apprendre, faire plein d'erreurs. L'agriculture biologique, c'est un peu un départ, c'est pas une fin en soi. Donc, on s'en est servi comme base de travail au début. Et puis, ben, tout ça évolue. Évolue vers quelque chose de beaucoup plus vert. C'est-à-dire quand on arrive sur un domaine où ben c'est du conventionnel, les raisins partent en cave coopérative et tout est très déconnecté finalement, ben nous on refait de la connexion, de la complexité. On branche nos haies sur les rivières d'à côté, on fait remonter de la faune, de la microfaune dans nos parcelles, on plante des arbres dans les vignes, on fait une mare par hectare et tout ça bouge, grouille, chante. Donc c'est
merveilleux. On a envie d'y être, hein, avec un verre.
Du coup, ça fait le lien avec. Je vous avais donné une petite consigne pour cette interview, pour cette rencontre. C'était de ramener un objet, et vous avez ramené chacun un objet. Enfin, le tien. Excuse-moi. Et moi, Tiffen est moins palpable. Tiffen est en fait, malheureusement, celui de Tiffen est resté. Il a été
sur le mur de Tiffen.
Il est resté sur le mur de Tiffen. On en parlera tout à l'heure de son objet. Et Ludovic, vous avez ramené une paire de jumelles. Je trouve ça génial parce que c'est vraiment. Je m'attendais pas à une paire de jumelles, mais pourquoi cette paire de jumelles ?
Bah, c'est la suite d'un petit garçon qui s'émerveille dans son jardin devant une fourmi. C'est-à-dire, ça paraît un peu poétique comme ça, mais s'émerveiller du vivant, c'est aussi s'y intéresser, c'est comprendre toutes ces interactions. Et maintenant, un jour, un client passe sur le marché, il vient chercher du pain chez nous, parce qu'on fait un petit marché fermier tous les vendredis à la maison. Et on parle de ça, et il me dit, mais moi, je suis ornithologue et je travaille à l'ONF. Et il me dit, viens voir, on va aller voir dans tes vignes. Et on commence à nommer les oiseaux, à comprendre les chants, et à faire de la reconnaissance. Et quand on met le doigt là-dedans, ben un jour, on met des jumelles dans son tracteur et on s'arrête de travailler et on regarde ce qui passe. Voilà. Donc notre métier, il est aussi fait de ça. C'est-à-dire non seulement, il y a une pression, c'est-à-dire qu'on doit être dans le rythme de la nature avec un ciel qui est parfois pas toujours précis et qui présente certains dangers. Et il y a des moments d'émerveillement. Et on en profite en plein. Et on se cultive.
Et avec le boulot qu'il y a, vous avez le temps de regarder encore les petites bêtes ?
Eh bien, on se donne le temps. On se
ça,
donne
c'est
le
beau.
Temps. Ouais, c'est là un peu le privilège qu'on s'offre. C'est de baisser la pression. Oui, on a plein de pression, mais aussi on travaille avec la nature. Voilà. Et c'est une espèce de réciprocité. Même si elle nous donne beaucoup plus que ce qu'on lui rend. Mais on s'émerveille de ça. Et les jumelles servent à ça. Alors, ça peut être une hirondelle rustique qui passe, ça peut être même une libellule. C'est pas grave, j'arrête le moteur, pas longtemps, mais j'essaie de la caractériser et de m'en cultiver. Voilà.
Tiffen, vous avez une paire de jumelles sur le tracteur ?
Sur le tracteur, non. À la maison, oui. À la maison, oui. C'est vrai que pendant le travail des vignes, je crois pas qu'on l'ait déjà prise. Après, on a donc depuis 2-3 ans, on a une maison avec une mare où pour ne pas sortir, on utilise des jumelles parce que sinon on effraie ne serait-ce que des canards sauvages ou le héron qui vient souvent ou de temps en temps un martin pêcheur quand on est chanceux. Donc oui, les jumelles sont plus à proximité de la mare pour pouvoir observer ça.
Ludovic, en fait, cette rencontre avec l'ornithologue et c'est justement les jumelles qui vous accompagnent maintenant, ça a changé quoi dans le quotidien du métier ?
Eh ben, ça a changé le... Bah, déjà, techniquement, ça a changé plein de choses. On sait qu'il y a des interactions dans un écosystème. Il y a ce qu'on appelle une chaîne trophique. C'est le gros qui mange le petit, on va dire. Donc, au niveau des parasites de la vigne, tout se régule naturellement. Ça, c'est un vrai cadeau. Alors qu'on nous a toujours appris que il fallait pulvériser tel produit quand tu avais tel insecte. Ça, tout ça n'existe plus à la maison. Ça fait déjà un petit moment déjà. On est en Déméter pour information depuis 2009.
Donc, c'est quoi Déméter?
Pardon, c'est de la biodynamie et c'est déjà des règles appliquées où on a à la base un respect du vivant. Voilà. Et ça fait 20 ans. Plus. Et ce que ça apporte, c'est une compréhension du milieu. Et puis ça pousse également à l'expérimentation. C'est-à-dire que on va vouloir soigner chaque détail pour être un lieu accueillant, pour un maximum de diversité. Et là, quand on y a un maximum, on répertorie 72 espèces d'oiseaux autour de la ferme, dans notre écosystème, 11 espèces de chauves-souris, ce qui est à peu près exceptionnel dans un petit rayon comme celui-ci. Et voilà, et on continue. Voilà, par exemple, le programme de cette année, ça va être de rajouter des cavités, c'est-à-dire j'ai des arbres morts un peu plus loin, je vais les déplacer. Des petites choses comme ça, des petits détails qui font qu'on a la petite bête en plus. Voilà.
Christophe, je t'avais dit qu'en fait, on n'allait pas spécialement parler de vin avec Ludovic.
J'ai l'impression, ouais, quand même, mais je pense qu'on va arriver à lui tirer quand même des trucs sur le vin, parce que moi, ça m'intéresse quand même.
Ouais. Alors juste l'affiche.
Ah oui, alors oui, c'est quoi cette affiche alors que c'est l'objet fétiche de
l'affiche qui est sur la table, qui aurait dû être sur la table.
Ouais. Mon choix, oui. Oui, pas évident. Je me demandais de quoi je pourrais parler, quel objet effectivement je pourrais prendre. Et on est quand même dans un salon de vin au fou qui s'appelle Vin Illustration. Et donc j'ai pensé à du graphisme. Bon, c'était un peu aussi mon métier, donc je triche un peu, mais. Et là, c'est pas moi qui m'ai chargé. Je ne suis pas l'autrice de ces affiches.
On rappelle que tu es graphiste.
Oui, de base, ouais, voilà. Et du coup, voilà, c'est un collectif qui s'est créé en 2023 de femmes dans le milieu du vin. Voilà, c'est pas forcément des vigneronnes, même si on est quand même nombreuses. C'est toutes les personnes qui travaillent dans le milieu du vin, sommelières, cavistes. Et après, c'est des affiches donc, qu'on pose dans les salons pour que tout se passe bien pour tout le monde. Et également des formations, proposer des formations aux femmes, des moments aussi d'échange, de rencontres, de partage. Voilà, c'est juste un collectif. Donc cette affiche ça s'appelle VTF et donc c'est un collectif de femmes dans le monde du vin, dans le 49. Il en existe plusieurs. Donc Payton Pinard, il y a de nombreuses initiatives du même style, mais j'avais pensé à ça. D'autant plus avec la thématique vin et illustration, vu que là c'était une affiche, voilà. Je m'étais dit que c'était plutôt pas mal. Et de parler que des femmes dans le monde du vin ont toujours été là, souvent dans les bureaux, mais pas que, ça faisait tourner la machine aussi depuis toujours.
Il y en a quand même de moins en moins dans les bureaux maintenant. On voit de plus en plus de domaines avec des femmes à la tête.
Et puis ça fait de nombreuses années que de toute façon, même si effectivement elles étaient plutôt dans l'ombre, c'était grâce aussi à elles qui faisaient tourner la machine avec souvent les compagnons. Enfin voilà, mais voilà, il y a de plus en plus de femmes qui sont vigneronnes, sans hommes. Alors moi j'en ai un, mais voilà, il y a énormément de femmes, il y a des salons 100% femmes, plein d'initiatives et c'est génial parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui se lancent et qui font des super choses. Donc j'encourage tout le monde à aller se renseigner de ce côté-là.
Et voilà. Vous faites combien, vous savez combien d'hectares
Nous on est 7,5 environ. Alors ça bouge beaucoup parce que donc nous c'est une création, c'est pas un modèle familial, donc on a dû trouver les vignes, des locations, arracher, refaire, racheter, déplacer, on a trouvé le chai après avoir démarré. Donc un joyeux bazar. Donc on est en train de peaufiner ce parcellaire, essayer d'organiser tout ça. Et c'est des années en fait. Ça met en fait beaucoup de temps. Donc nous on vient d'arriver. Donc un parcellaire en cours.
C'est une petite question qui fait toujours mal. Vous en vivez ?
On en vit tout juste. Parce qu'on a démarré donc il y a peu avec des gros investissements. Donc les banques sont derrière. et pas qu'un peu malheureusement, on a fait vraiment le jeu de, des banques et aussi des aides, enfin des GIA, des choses comme ça, les parcours de ce type. Donc on va commencer à respirer un peu plus, mais on a démarré avec des gros enjeux financiers. Donc voilà, beaucoup de des objectifs de vente à respecter pour pouvoir tenir, vu qu'il y a eu le chai, les travaux, des achats de vignes, de matériel. Un lancement, quoi, et tout à faire en même temps. Donc voilà, ça, pour l'instant, ça va. Mais c'est, voilà, c'est costaud. C'est...
Bon, et vous, Ludovic, alors vous êtes diversifié. Je pense que dans la diversification, il y a une volonté de remettre un peu plus d'argent tous les mois dans les finances.
Ouais,
c'est un plaisir juste parce que je rappelle que vous êtes artisan boulanger, c'est ça? Ouais. Paysan boulanger,
c'est ça?
Ouais.
Alors ça se fait à une époque où, dans nos quatre premières années où on livre notre raisin en cave coopérative. Ça devient vite très ennuyeux. C'est de la monoculture. On a fini de livrer les raisins. On va bientôt tailler. On recommence un cycle. Ça donne pas beaucoup de sens, en fait, à notre vie de paysan. Donc, en 2003, on sème nos premiers blés au bord de la rivière, dans un pré, comme ça. Et on a nos blés, quoi. Et c'est une plante un peu miraculeuse qui est assez simple, finalement, à cultiver. Et on achète dans la foulée un moulin et on se rend compte qu'on peut faire nos deux fournées par semaine. Qui font une trésorerie, en fait, qui font des gens qui traversent la cour de la ferme, qui par ailleurs de temps en temps nous prennent quelques flacons, voilà. Et cette double activité, c'est aussi une espèce de dynamisme. C'était l'initiative de Marie, ma chérie, ma femme, et ça devient une collaboration. On échange beaucoup, on s'aide chacun dans nos ateliers. En gros, la semaine, c'est les trois premiers jours dans les vignes avec elle, et les deux derniers jours, jeudi, vendredi, avec Marie au pétrin. Voilà. Et le samedi, bah, vous voyez, on part en Bretagne, on fait des choses comme ça.
Et vous vendez plus de vin ou de bouteilles?
Plus de pain ou de bouteilles?
Pardon, plus de pain ou de bouteilles? Ça, c'est, ça y est, je commence, faut que j'arrête de tourner de dégustation. Plus de bouteilles ou plus de pain?
C'est pas tellement en quantité, c'est peut-être plus en chiffres que ça pourrait se dire. Alors, il y a eu des grosses vagues. Le vin, c'est très aléatoire, en fonction de la mode du moment, en fonction de, bah oui, du porte-monnaie aussi, etc. On va dire que le pain est bien plus stable. Voilà. Le pain fait notre trésorerie régulière, c'est quelque chose d'alimentaire. Les gens mangent du pain et quand il est bon, ils reviennent. Voilà. Le vin, ça, en ce moment, ça fait à peu près la moitié seulement du chiffre d'affaires.
Ouais. Et vous avez des idées d'extension de nouveaux cépages, pour vous diversifier encore plus?
On a plein d'idées. Alors, il y a déjà pas mal de choses de mise en place. Depuis 20 ans, on a planté d'autres cépages que les cépages Beaujolais, que sont le Gamay pour les rouges et le Chardonnay pour les blancs. On a mis des Gamarais, c'est un cépage suisse rouge, la Syrah. On a mis des...
La Syrah, c'est presque un peu haut pour vous quand même.
Eh bien non, plus maintenant. Le 45e parallèle est monté jusque chez nous. On a des températures qui permettent la maturité des Syrahs.
Génial.
Vraiment, ouais. Et puis alors du Chenin pour faire résonance.
Alors par contre, là, ça redescend le Chenin.
Ouais, mais je suis étonné, moi, de la bonne adaptation aussi.
Ouais, je l'ai goûté chez vous, c'est quand même assez incroyable.
Voilà, on a toujours cette fraîcheur.
Cette fraîcheur, c'est un style ciselé.
Ouais, c'est, ouais. Différent. Le Chardonnay, bien sûr. Pardon, oui.
Il faudrait que vous parliez bien près du micro comme ça. Là.
Moi, j'ai... c'est plutôt le verre que je mets sous le nez.
Je comprends, c'est pas le même goût. Hein.
Et puis, alors, pour finir, Viognier et puis Muscat Petit Grain. Voilà.
Ouais. Il y a quelques cépages, on sent, de pays plus du sud. Quoi. Oui,
c'est ça. Alors, moi, j'ai été sommelier avant d'être vigneron et j'avais besoin de toucher à d'autres sensations. Le Gamay, c'est un cépage exceptionnel.
Magnifique.
C'est, je sais pas. Puis en plus, c'est un caméléon en fonction de la colline sur laquelle il pousse. Il a d'autres personnalités. C'est magnifique. Mais quand tu fais un marché fermier où tu vends ton pain tous les vendredis, tout le monde a un cousin qui est vigneron, qui a du Gamay. Voilà, ouais. C'est parti un peu de là aussi l'idée. C'est de proposer d'autres styles de vin en circuit court.
Mais par rapport aux appellations, ça pose un problème?
Aucun.
Enfin, non, parce que de toute façon, vous avez tout en IGP ou en
Vendée? Non, alors nos Gamay sont en Beaujolais et nos Chardonnay aussi, mais le reste, ça sort du cadre. Et on aime bien sortir du cadre. En fait.
Ouais, mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui est intéressant dans le vin nature, c'est qu'on peut facilement sortir du cadre. Mm-hmm. Et alors, j'ai vu que tu étais sur Déméter, mais pourquoi pas le choix de la VN, qui est quand même à l'origine l'association des vins naturels, quoi.
Ouais, ça pourrait être la suite. Je ne suis pas réfractaire. Encore une fois, tout ça, ce sont des labels ou des certifications, mais c'est encore une fois un point de départ. Pour moi, il ne faut pas que ça soit une contrainte non plus. Et je suis toujours un peu à l'envers, c'est-à-dire que je me dis toujours que ce n'est pas normal que nous, on paye pour montrer qu'on fait sainement les choses. Voilà, mais après, voilà.
C'est logique, c'est un raisonnement logique. Et alors, et vous, je reviens vers vous, parce que quand on entend cette diversification, ça ne vous donne pas des idées ?
Ah oui, ah bah alors ça, c'est déjà des projets. Bah, on a un projet de mare. Là, ça fait déjà quelques temps qu'on a arraché un morceau de parcelle et là, on vient de planter un petit peu de chenin. mais dans le bas, on n'a pas planté l'intégralité de cette... On n'a pas replanté l'intégralité de cette parcelle pour la création d'une mare, justement. On a un projet de plantation de haies et de fruitiers avec des associations qui nous aident locales, qui nous aident à choisir les bois à utiliser, etc. Et moi, oui, j'ai très envie de faire des fermentations de fruits. Il se trouve qu'on a un verger qui a déjà été planté, bon, un tout petit, hein, mais donc oui, j'aimerais bien effectivement faire autre chose que du vin. Encore une fois, nous, c'est très récent, donc c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Mais voilà, il y a des envies, il y a des choses. Et oui, clairement, maintenant, quand on arrache, on replante plus comme c'était. On laisse des espaces, on laisse des haies, on a des fruitiers ou des choses en parallèle. Effectivement, c'est des choses maintenant qu'on fait, qui se font, je crois, en tout cas dans nos milieux, qui se font de plus en plus. Et oui, l'idée de la mare, effectivement, il y a ce projet-là sur une des parcelles. Donc ouais, bien sûr, une envie de une légère diversification, mais c'est vrai qu'on reste quand même dans l'alcool pour nous, en tout cas pour l'instant. Mais on a également des amis qui sont paysans, boulangers, vignerons, qui ont des doubles casquettes, et c'est vrai que ça permet aussi des choses. Mais oui, bah bien sûr, ça c'est ce que Monsieur fait, ce que Ludovic fait, c'est exactement sur quoi, enfin ce qu'on aimerait faire. Mais ça demande 30 ans, non, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est à cette échelle, c'est à peu près une vie.
Voilà,
ouais,
c'est le projet d'une vie. Voilà.
Demi-vie, quoi.
Voilà. Demi-vie active, ouais.
C'est bien, on reste toujours actif. Enfin, c'est sûr que dans la vie, quand on y est pour la vie. Hein.
Vaut mieux si on veut réussir à atteindre certains objectifs, en tout cas.
Et vos circuits de distribution, c'est quoi, en fait ?
Eh bien, alors, pour nous, on ne fait pas beaucoup de direct. C'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de direct. On est majoritairement cave-restaurant. On va avoir 20-30% d'exportation. On va avoir 10% en particulier. C'est vrai qu'on fait peu de particuliers. Enfin, on fait des salons, mais c'est vraiment à travers ce genre de salon, ce genre d'événement où il y a une rencontre du particulier. Sinon, ouais, c'est énormément cavistes, restaurateurs à travers la France.
Ouais, c'est des gens qui viennent vers vous. C'est vous qui démarchez à chaque fois ou
ben,
c'est,
ça dépend des années, ouais. Ça dépend des moments. Là, ça fait à peu près un an que moi j'ai beaucoup. Comme on est nouveau et qu'on a besoin de se faire connaître aussi, en Anjou, on est nombreux. Donc, il faut aussi se déplacer, se montrer et en tant que vigneron, se présenter. Expliquer notre parcours, notre travail. Donc je me suis beaucoup déplacée à Marseille, à Toulouse, à Paris, voilà, des grandes villes de France.
Et aujourd'hui au Fou ?
Et aujourd'hui le Fou ? Ah bah la Bretagne, nous c'est bah mon ami est du Morbihan. Donc c'est bon, c'est sud Bretagne. Alors on est au fond dans le Finistère, donc c'est pas tout à fait la Bretagne. Enfin ça dépend des chapelles.
Si aussi on est vraiment en Bretagne ici.
Ah ben voilà, non mais c'est
à
ça que je veux dire.
Morbihan,
c'est que lui Morbihan, on n'est pas toujours, tout le monde n'est pas d'accord.
C'est la Bretagne, mais... on est large.
Voilà.
Jusqu'à Nantes et Rennes, c'est la Bretagne.
Oula, ça va.
Ouais, alors je vous propose de faire un petit break musical et on va préparer une petite dégustation avec vous. Alors, on vous propose une petite dégustation, là, tous les deux. Alors, pendant ce petit intermède musical, on va parler d'une chose, c'est que je me suis aperçu qu'on boit de moins en moins de vin en France, et vous me dites, tant mieux. Tant mieux.
Tant mieux, tant mieux, parce qu'on espère aussi que les gens boivent mieux. Et oui, il y avait plusieurs raisons au tant mieux. C'est que bah il se trouve que c'est à forte dose mauvais pour la santé, mauvais pour beaucoup de choses, et que le fait que les gens diminuent ou baissent leur consommation est aussi une bonne chose pour tous. On a des générations de personnes qui ont eu un problème avec l'alcool. L'alcool reste une drogue parmi d'autres. Et effectivement, le fait de moins boire, de boire mieux, c'est ce qu'on espère aussi. Je ne suis pas contre.
Ludovic, vous, votre avis sur la question, c'est un peu la même chose.
Je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement, qu'il y ait moins de consommation d'alcool au sens large. J'ai envie d'espérer que c'est un changement de paradigme, en fait, que le vin soit pas quelque chose d'alimentaire, mais quelque chose de festif, réservé des occasions particulières, en cherchant le détail d'une bonne bouteille entre amis, que ce soit du lubrifiant social, voilà,
ouais, ça, c'est...
que ça remette de voilà l'humain dans la relation et non pas devant les écrans. Ça peut être bien en petite quantité, sans que ce soit quelque chose, oui, qui soit, ce soit une drogue ou un, ouais, allez, allons-y, un poison. Hein.
Bon alors, moi, je sais que devant vous, vous n'avez pas de poison, parce que vous avez deux verres de vin, et je ne vous dis pas quel vin c'est, à vous de retrouver le vôtre. D'accord. Voilà. Alors, dégustez, et puis commentez en même temps la dégustation de ce que vous ressentez quand même.
Ouais, alors, juste visuellement, c'est assez sombre tout ça. Hein. On oui. a un vin rouge qui a des reflets violacés, là. C'est
ça. Ah, c'est... Visuellement, je doute que ça soit mon vin.
Lequel. Ah, déjà, juste à la couleur.
C'est le même vignoble, c'est le même vin. Hein. Donc, vous avez, pour l'instant, okay. Vous avez les deux mêmes vins.
J'ai, oui.
C'est Yann qui a compliqué les choses.
Donc, c'est pas le tien, Tiffaine, c'est ça?
Ah non, à l'odeur, je ne pense pas. Il doit y avoir, en fait, celui. Que vous avez, que je suis censée reconnaître, n'a pas de barrique et c'est une macération assez courte. Là, déjà, on voit une extraction, on sent un peu de boisé.
C'est quoi une extraction ?
On sent que la macération était un petit peu longue, qu'on a cherché un peu à sortir un peu plus de matière.
On est resté plus longtemps sur la macération.
Ouais, la macération a été plus longue que ce que moi j'ai voulu faire en tout cas sur le vin, sur l'autre vin. Et effectivement, je l'ai pas encore goûté, mais à l'odeur, je pourrais dire qu'il y a un peu de boisé, donc un peu de bois, un peu d'élevage barrique. Voilà. Donc je ne pense pas que ce soit mon vin.
Je suis un peu dans cette même idée. Ça sent un peu la, enfin pas dire la Méditerranée, mais pas loin. Ça fait vin du sud, moi je trouve. Il y a de la concentration aromatique. On est dans des ambiances de garrigue, de mûres, de réglisse. Et en bouche, il y a de la densité.
Ouais.
Sans que la fin de bouche soit trop lourde. Et ça c'est très bon. Pour moi, c'est un peu un exploit.
Cette longueur qu'il y a ou
Longueur, mais à la fois, c'est pas lourd.
C'est voilà, pas lourd, voilà. Ouais.
Et pourtant, là, on est sous un barnum, il fait chaud.
Il fait chaud, le vin a l'air épais quand même.
Voilà. Et à mon avis, il y a quelque chose qui est particulier dans ce vin. Il y a eu un respect, je pense, de la bonne date de cueillette pour pas avoir cette charge.
Alors, on va goûter le vin suivant. On donnera la réponse après. Hein.
Ouais.
Alors, en plus, je suis désolé parce que je fais ça n'importe comment. Y a pas...
Voilà. C'est pas grave, Yann. C'est... Sommelier, c'est un métier. N'est-ce pas? C'est ça, Ludovic?
Ouais, alors c'est un métier. Mais alors, et en même temps, finalement, il faut que ce soit assez informel. Le vin, il me semble que c'est OK. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux.
Est-ce qu'il est bon?
Voilà, exactement.
Nous, quand on faisait des dégustations, on disait est-ce que tu en offrirais une caisse à ton meilleur ami?
Mais voilà, et ça s'arrête là.
Ça s'arrête là. Quoi. C'est la conversation qu'on peut avoir la plus intelligente avec le vin. Ah, alors, deuxième cuvée, ça.
Alors, une robe un peu plus claire.
Ah, après, on se rapproche de chez vous, alors?
Non, c'est peut-être un changement de cépage aussi. Enfin, ça peut aussi jouer, pas forcément les jours de macération, mais c'est aussi peut-être le cépage. Enfin, il y a plein de choses.
Ludovic ?
Ouais. Alors effectivement, un robe plus clair, un nez qui a plus de fraîcheur pour moi. On a l'impression d'avoir dans un buisson au jardin, en train de manger des framboises là.
Ah, c'est il y a du fruit.
Ouais, il y a du fruit. C'est assez simple comme nez. C'est pas très complexe.
Ça pourrait ressembler à du Beaujolais.
Mais alors voilà, bien sûr, moi j'ai reconnu. Je pense hein, cette trame là de ce que pourrait donner un gamay sur nos sols.
Ouais, c'est des sols de...
Alors là, cette parcelle, si c'est celui-ci, hein, parce que alors c'est très facile de se tromper dans le monde du vin. Il suffit qu'il y ait une émotion qui passe par là et on peut vite changer de microclimat, on va dire.
Ouais,
le sol, là, en l'occurrence, c'est un sol limoneux.
Ouais.
Donc c'est plutôt des éléments fins. C'est un sol assez doux au toucher, ouais. Et qui garde l'eau. C'est-à-dire ouais. Quand je suis arrivé à la ferme, j'ai vu de la vigne sur ces terrains-là, je me suis dit, il faut qu'on arrache sur ces terrains, il ne faut pas mettre de la vigne. Et on est tellement content de les avoir, ces sols maintenant, qui restent frais et qui gardent la fraîcheur et qui donnent cette fraîcheur aux raisins. Pendant les canicules, ça craint moins qu'ailleurs. Ouais. Voilà, les raisins restent joufflus.
Ouais, je vois ça. Et vous c'est plutôt les sols, c'est quoi chez vous un peu
On va avoir effectivement des schistes qu'on réserve souvent pour les blancs.
Pour les blancs, hein, ouais.
Pour le chenin. Nous, on a de l'argile, du schiste pourpre, des argiles, un tout petit peu de calcaire. Oui, voilà.
Alors, on vous a apporté une troisième cuvée. Non, ça, c'est le crachoir.
Ça sent bon aussi.
Oui,
ça sent bon aussi. Hein.
Alors, ça, peut-être que c'est bien.
Ah, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous autorise
c'est le
à
nez,
dire ça
bah, peut-être, hein, je peux me tromper, bien sûr. Mais une petite gourmandise, un petit croquant. Alors, la cuvée en question. C'est un gros loup noir avec des macérations courtes et un élevage en cuve et on a quand même ce côté gros loup un peu grenadine, un peu croquant, assez frais et donc en tout cas au niveau voilà de la robe on reste un petit peu plus clair que le premier et là au nez ouais j'aurais ce type en tout cas ça se rapprocherait.
Je tiens à dire qu'on ne boit pas et qu'on crache hein, en même temps. C'est... Et alors, vu Ludovic, c'était comment ce petit voyage avec cette cuvée précédente?
Ah, magnifique. C'est bourré de... Moi, j'étais plus le nez dans un bouquet de pivoine. Là. C'est un aspect floral. Très, très élégant. Ouais, c'est fin. On est vite aussi... Ouais, grenadine, ça me parle aussi. Ce côté presque gourmand. Confiserie. Ouais. Ouais, c'est magnifique. Et quant à la bouche, il y a alors une fraîcheur d'entrée de bouche. Une matière soyeuse et une finale qui est comme un rebond. Vous savez, qui donne juste envie d'en reprendre un canon, là.
Ouais, ouais,
ça fait saliver.
C'est ce qu'on appelle saliver, ouais.
Ouais.
Le petit goût de reviens-y.
Et oui, la virgule, le point virgule.
Le
ouais.
point virgule. Là, c'est là. Alors, la dernière cuvée.
Ouais, là, vous.
Petit doute, là.
Ouais.
Ne sniffez pas le micro, il ne sent rien, sauf la laine de tous les mecs qui sont passés avant.
Après, je goûte le micro. Hein,
Allez-y, mais je vous conseille plutôt le vin. C'est pas nature le micro.
Là, pour moi, on est plus dans un raisin dans sa macération.
Ah.
On est un peu encore dans, vous savez, dans cet anaérobie qu'on propose
une
cuve.
On est encore voilà. au milieu là.
Voilà.
Au milieu du goût du fleuve là, on est.
Ouais, on est en devenir. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer. C'est peut-être aussi un état du vin. Les vins nature, ils voyagent comme ça, selon les saisons. C'est moins expressif et à la fois, on sent une concentration. Il y a quelque chose derrière. Ça, à mon avis, ça peut être des petites bombes aromatiques qui vont se révéler. Pour l'instant, le nez est un peu sur la réserve, mais il y a de la gourmandise. Je te laisse peut-être commenter la bouche.
Oui, tout à fait. Enfin, du coup, je reste sur le précédent en ce qui serait le mien. Mais oui, il y a quand même une belle fraîcheur. Effectivement un peu foufou, un peu jeune, un peu de qui perle en bouche, qui est un peu qui frétille un peu. On reste sur quelque chose d'assez gourmand, assez fruité, mais oui, peut-être qu'on sort un peu du gros loup noir en tout cas précédent, peut-être un peu moins bonbon, un peu moins grenadine.
Sur celui-là, le dernier, c'est ça ?
Oui.
Vous êtes sûr que c'est pas le vôtre ?
Je crois pas.
C'est sûr.
Ah bah,
hein.
Bah voilà. Je ne sais.
Yann, alors, ça a l'air de te faire bien marrer, ta.
Non, je pense que c'était le précédent.
Alors, 1, 2, 3. Oui, alors, Ludo, vous avez retrouvé votre vin.
Ah, merci. Okay. Je reconnais mes enfants.
Le premier que vous avez testé, c'était le domaine Badea. Donc, j'ai pas pris les bouteilles, mais bon voilà. Peut-être vous pouvez nous en parler. Ludo, vous les connaissez, non?
Non.
Donc c'est le sud-sud-est, c'est en bas.
C'est les vins de la chaleur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Un Syrah.
Ouais, donc
pardon, excusez-moi.
Le deuxième
quoi.
Était Syrah.
Non, le premier c'était Fontaine des Grives, pardon.
Oui, Fontaine des Grives, un Merlot.
Ouais. Fontaine des Grives. Le deuxième c'était donc
Terre vivante.
Terre vivante. Le troisième,
ouais, donc.
C'était le troisième, c'était Badea.
Ah, d'accord.
Badea. Et donc le dernier, c'était votre vin.
D'accord.
Tiffen.
Et quel cépage pour le
Badea?
Oui.
La Syrah.
La Syrah, je crois.
Ah, la Syrah. Ok, ouais. Très fraîche.
Ah, oui, okay. Ouais. Une Syrah certainement pas trop extraite.
Eh bah, non. Très belle Syrah.
Ouais.
Voilà.
Ouais, alors, cette cuvée, c'était quoi, là, que vous nous aviez amené?
Gros loup noir.
Gros loup noir. Et vous l'accompagneriez de quoi?
Ah, alors c'est plus, nous on appelle ça plus un vin de soif.
Ouais.
Donc à servir légèrement frais, plutôt en apéritif.
À l'apéritif, ouais. Ouais. D'accord. Et vous, Ludo, ce que c'est arrivé ?
On ne s'était pas concerté avec Tiffaine, mais ça aurait été deux bouteilles à faire voisiner sur une planche d'apéro, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu le.
Charcuterie,
truc. Ouais, imprévu, ouais, trois potes qui arrivent et on fait claquer le bouchon et on parle autour, quoi. Sans intellectualiser les choses, mais juste pour le moment.
Ouais, je crois que
j'ai bien aimé que vous trouviez votre vin sauvage.
Oui, un peu plus sauvage, ouais.
Ouais, mais
après,
il a été
mis en bouteille au printemps dernier.
C'est quoi un vin sauvage ?
Un vin sauvage, parce qu'on sent qu'il y a encore un peu de CO2, un peu de vie. Il est encore. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il est passé d'une cuve à la bouteille. Et là, avec en plus le changement de température là de ces derniers jours, le camion. Voilà.
C'est les vins perlants qui sont, c'est ça, c'est le.
Enfin,
côté
sauvage.
Perlant.
Alors sauvage, c'est peut-être, ça peut être péjoratif le terme sauvage,
non, moi,
mais là c'était,
plutôt,
là c'était bien. Pas du tout un défaut que je pointais du doigt, mais plus qu'il était foufou. Un
ouais,
peu,
c'est ça, vous avez
un peu
fait, il travaille encore, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais vu que c'est en 2025 que je commence à peine à faire goûter, oui, ça m'étonne pas que du coup, ils soient un peu foufous.
Les vins nature, sont toujours en respiration.
Ouais,
là,
oui.
Là, il est juste en expiration. Et moi, j'ai eu plein de cuvées comme ça aussi. Je vais faire le vieux pépé, mais, et qui se révèle, mais alors, être incroyablement aromatique quelques semaines, voire un mois plus tard. Mais à mon avis, c'est un super gros potentiel.
Il y avait des jolies maturités aussi, donc il faut qu'elles se retrouvent en bouteille et qu'elles explosent effectivement, parce que 25 était
en tout cas pour notre dernière émission du jour sur ce salon qui est magnifique, on a pris beaucoup de plaisir avec cette dégustation et avec vous deux. On vous surtout n'arrêtez pas, tenez bon, continuez à nous faire des jolis vins comme ça et puis qu'on boira avec raison avec nos amis. Voilà.
Merci.
Merci d'être venu.
Merci à vous.